L'été avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la crise politique au Gabon. Comment sortir de l'impasse? 2 mois et demi après l'élection présidentielle, Jinping se présente toujours comme le président élu. Il rejette donc le dialogue national proposé par Ali Bongo. D'ailleurs, jusqu'à présent, tous les partis politiques qui ont soutenu la candidature de Jinping font bloc en rejetant la main tendue du président réélu. Mais vous l'avez certainement entendu hier sur RFI, Casimir Oyemba, le numéro 2 de l'opposition, n'a pas exclu un dialogue avec le pouvoir. Alors l'opposition va-t-elle se diviser? Vos réactions évidemment nous intéressent. Dites-nous quelle solution il faut aujourd'hui privilégier, d'autant que théoriquement le mois prochain doivent se tenir les élections législatives. Nous en parlons, vous êtes déjà très nombreux sur la page Facebook de l'émission. Je lirai évidemment quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure pour alimenter le débat. On vous attend désormais au standard. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Nous sommes là tous les matins pour répondre à vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Barry, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Bangui et vous avez des questions concernant la Centrafrique, votre pays.
Oui, bonjour Juan et bonjour tous les auditeurs de RFI. J'ai une question, je voudrais savoir, comme vous savez, demain à Bruxelles va se tenir une conférence sur les donateurs pour la République centrafricaine. On sait que du temps de Bozizé, il y en avait déjà eu 2 ou 3 qui se sont soldés par des échecs. Et donc pour celui qui va avoir lieu demain, là, qu'est-ce que le pays peut réellement attendre de cette conférence?
Ah, bonne question, effectivement. En tout cas, le président Touadéra, lui, espère mobiliser 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Vous rentrez de Bangui. Vous serez demain à Bruxelles, où se tiendra donc cette conférence internationale sur la Centrafrique. Peut-on dire déjà, comme l'affirme Barry à l'instant, que la précédente conférence des bailleurs de fonds sur la Centrafrique avait été un échec?
Il s'agissait à l'époque, en fait, c'était en juin 2011, c'était pas la précédente, hein, il y en a eu d'autres entre-temps, mais celle que Barry évoquait sous Bozizé, la dernière, il s'agissait alors de présenter un plan de réduction de l'extrême pauvreté sur 5 ans. À l'époque, on avait parlé de 400 milliards de francs CFA promis par les bailleurs de fonds, environ 600 millions d'euros, mais tout ça avait été très obscur et l'essentiel, semble-t-il, n'a jamais été versé. Il faut dire qu'à l'époque, la Centrafrique était donc dirigée par François Bozizé, qui venait d'être réélu en janvier de cette année 2011, au terme d'élections contestées, et que la corruption systémique et puis le conflit qui a éclaté l'année suivante en 2012, eh bien, ont découragé, semble-t-il, les bailleurs de verser effectivement cet argent. Notons qu'à l'époque, le Premier ministre s'appelait Faustin Archange Touadéra. En fait, il y a eu donc 4 conférences de donateurs depuis celle-ci de 2011. Aucune n'a jamais obtenu ce que les acteurs humanitaires avaient demandé, n'a jamais obtenu la totalité du versement promis.
Et aujourd'hui, Pierre Pinto, la situation centrafricaine est différente?
Alors c'est ce que essaie de présenter le gouvernement centrafricain. Le pays peine à sortir d'un conflit ravageur, mais la légalité constitutionnelle est de retour. Le président Faustin Archange Touadéra a été élu démocratiquement en début d'année. Il jouit donc d'une pleine légitimité aux yeux des bailleurs de fonds internationaux. Il est appuyé par une importante opération de maintien de la paix des Nations Unies sur les plans sécuritaires et humanitaires. Depuis 3 ou 4 ans, l'Union européenne également, à travers le fonds Bekou notamment, ainsi que des puissances comme la France ou des voisins africains de la Centrafrique, sont au chevet de Bangui sur le plan financier. En fait, la RCA est un pays qui vit toujours sous perfusion financière internationale.
Alors, qu'y a-t-il de nouveau en 2016 aujourd'hui, Pierre Pinto?
Alors, cette fois, il y a une stratégie vaste. Le gouvernement centrafricain va présenter son plan de relèvement pour les 5 prochaines années, un plan qui tient sur trois piliers. D'abord, restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation. Concrètement, ça veut dire lancer le fameux programme DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement des combattants des groupes armés. Ça veut dire aussi poursuivre la réforme de l'armée, de la police et de la gendarmerie, réforme déjà engagée d'ailleurs, réformer l'institution judiciaire pour lutter contre l'impunité et puis faciliter la réconciliation et le retour notamment des réfugiés et déplacés chez eux. Ça fait 800 000 personnes tout de même. Pour amorcer ce vaste chantier, eh bien là, le gouvernement demande 461 millions de dollars. Le deuxième pilier, c'est un nouveau contrat social entre l'État et la population. Ça passe par le redéploiement de l'administration sur le territoire centrafricain, l'administration qui a volé en éclats. La fourniture des services de base aux populations, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, assurer la sécurité alimentaire des gens, puisque la moitié des centrafricains aujourd'hui peinent à trouver de quoi manger. Et aussi lutter contre la corruption, faire rentrer les impôts, contrôler les finances publiques. Pour tout cela, le gouvernement demande 1,326 milliards de dollars. Enfin, le troisième pilier de ce plan, c'est la relance économique, en particulier les secteurs productifs. En Centrafrique, c'est l'agriculture, l'élevage, les mines et le bois. La relance passe bien sûr par la construction d'infrastructures, des routes. Elles sont rares dans ce pays, d'autant plus problématique que c'est un pays très enclavé. Acheminer l'électricité également, les communications dans les régions reculées, privées de tout. Ce volet-là représente 1,224 milliards de dollars.
Et donc au total, le président centrafricain réclame 3 milliards de dollars. Un peu plus, 3,1 voilà. milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Mbari, vous avez une dernière question ?
Oui, on a vu, ça fait 3 milliards de dollars. Alors, la dernière question, c'est quelles pourront être les conditions que ces bailleurs-là vont imposer au pays pour qu'ils puissent bénéficier de ces fonds ?
Pierre Pinto.
D'abord, dans la liste que je viens d'évoquer, il y a des réformes en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Alors, les autorités vont devoir donner des gages, c'est certain. Certaines voix dans la communauté internationale avaient même exprimé le souhait de voir ces réformes engagées avant de lancer cette conférence des bailleurs de fonds. Et puis, il y a une ligne dans le tableau, tout en bas, qui s'appelle « Renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre ». 150 millions de dollars sur 5 ans y sont alloués. Ça veut dire qu'une sorte de comité de pilotage ou comité de suivi va être mis sur pied pour suivre l'orientation de ces fonds. J'ajoute que lundi matin sur RFI, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Karim Mekaswa, avait insisté sur le fait que tous les mécanismes de contrôle existent déjà dans les textes de loi en Centrafrique, que les parlementaires ont les outils pour contrôler et rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent versé. C'est vrai que c'est une inquiétude chez les bailleurs de voir leur argent se volatiliser au lieu d'être employé à bon escient. On attendra donc des engagements forts demain à la tribune de la part du président Touadéra, notamment concernant ce point en particulier.
Et on verra ensuite si les bailleurs de fonds seront à la hauteur des espérances de la Centrafrique. Mbari, bonne journée à vous. Merci de nous écouter à Bangui. Pierre Pinto, on vous retrouve évidemment demain à Bruxelles pour suivre avec vous cette conférence des donateurs. 9h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Jean Bedel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. J'informe en passant que je capte RFI à partir de la fréquence du Congo-Brazzaville.
Ah, vous nous appelez de Kinshasa, effectivement, où le signal RFI est coupé depuis maintenant 13 jours. Vous avez des questions concernant Israël ?
Tout à fait, Juan. J'ai la fois passée suivi sur RFI que le Parlement israélien a adopté un projet de loi visant à légaliser les colonies israéliennes en Cisjordanie. Et à ce sujet, j'aimerais savoir, Juan, pourquoi le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, était-il hostile à l'adoption de ce projet de loi ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme moyen pour bloquer l'exécution de ce projet de loi ?
Ouais, c'est vrai qu'on peut parler d'un camouflet pour Benjamin Netanyahu. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant permanent d'RFI à Jérusalem, de passage à Paris. Donc nous sommes ravis évidemment de vous avoir ce matin dans notre studio. Alors c'est vrai que malgré son opposition, un projet de loi visant à régulariser les colonies sauvages en Cisjordanie a donc été adopté. Qu'est-ce qu'on entend déjà par colonies sauvages ? Ce sont les colonies qui sont construites sans l'autorisation du gouvernement israélien ?
Oui, car il y a deux types de colonies israéliennes en Cisjordanie. Il y en a qui sont considérées comme légales par le gouvernement israélien, qui ont obtenu des permis de construire et les infrastructures qui vont avec. Celles-là, a priori, donc, n'ont pas de problème juridique, encore qu'il y a parfois des contestations sur certaines maisons à l'intérieur de ces colonies. Et puis, il y a des colonies sauvages, des gens qui arrivent, en fait, finalement, et qui décident de s'installer sur une terre qu'ils jugent abandonnée et qui, sans autorisation de l'État. C'est le cas en fait d'une colonie dont on parle beaucoup en ce moment en Israël qui s'appelle Amona, qui doit être détruite, a ordonné la Cour suprême d'ici le 25 décembre. C'est en fait un peu une extension finalement d'une autre colonie légale, elle, qui est située en contrebas. Amona, ils sont installés en haut de la colline. Les colons estiment que ces terres n'étaient pas occupées et qu'ils peuvent donc y construire et revenir en fait, parce que ils estiment que la présence juive date de 2000 à 3000 ans sur place, et donc récupérer ces terres. Sauf que en fait, ces terres appartiennent à des gens, à des Palestiniens qui ont pu attaquer du coup en justice pour revendiquer la propriété de ces terres, et c'est là-dessus que la Cour suprême a statué en disant ces terres appartiennent bien à des Palestiniens, il faut donc les évacuer et donc détruire les maisons qui sont sur place. Ce projet de loi en fait vise du coup ces deuxièmes colonies, ces colonies sauvages, permettre en fait l'expropriation des propriétaires palestiniens moyennant finance. L'extrême droite israélienne, le parti le foyer juif, parti pro-colon qui est au sein de la coalition, dit notamment, qui porte ce projet de loi, dit notamment que les Palestiniens seront largement dédommagés pour le rachat finalement de ces terres. Mais la loi permettrait en fait de les exproprier sans leur demander leur avis et ainsi donc de légaliser finalement ces constructions israéliennes situées en Cisjordanie.
Oui, on estime qu'environ 15 000 colons de Cisjordanie vivent donc en situation irrégulière au regard de la loi israélienne. On rappelle que pour la communauté internationale, toutes ces colonies sont illégales.
Pour la communauté internationale, ouais. Toutes ces colonies sont illégales. Tout ce qui est construit par Israël au-delà de la frontière de 1967, la ligne verte, est considéré comme illégal aux yeux du droit international.
Alors comment expliquer que Benjamin Netanyahou s'opposait à ce projet de loi ?
Alors, ce projet de loi qui est porté par une partie de sa majorité, donc notamment le foyer juif, un parti pro-colon, effectivement, Benjamin Netanyahou y était opposé, en tout cas au départ. Ce qu'il disait, c'est que ça pouvait avoir un impact sur la décision de la Cour suprême, car Benjamin Netanyahou avait demandé un nouveau report, parce qu'il en avait déjà eu, de l'exécution de la décision de la Cour suprême concernant la destruction d'Amona. La Cour suprême a finalement tranché lundi en disant non, il n'y aura pas de report, on maintient la date du 25 décembre. Benjamin Netanyahou s'inquiétait aussi sur l'image que ça renvoyait d'Israël au niveau international, car ce projet de loi a déjà fait l'objet de vives critiques, ou en tout cas d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de partenaires, et notamment des États-Unis, en tout cas les États-Unis de Barack Obama. Et puis justement, ça inquiétait aussi Benjamin Netanyahou sur ce que pourrait entreprendre Barack Obama d'ici la fin de son mandat, car Barack Obama ne fait pas mystère de vouloir agir un petit peu sur le conflit israélo-palestinien entre l'élection présidentielle, donc qui est passée désormais, et la fin de son mandat le 20 janvier. La démarche peut-être la plus radicale qu'il pourrait entreprendre, ça serait une résolution au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela inquiète beaucoup les Israéliens. Ils s'inquiètent. Enfin, Benjamin Netanyahou se disait que peut-être ce genre de projet de loi, assez critiqué par les États-Unis d'Obama en tout cas, pourrait le pousser à agir un petit peu plus fortement.
Alors, le projet de loi a été adopté à l'unanimité par une commission ministérielle. Il doit maintenant, j'imagine, être adopté à la Knesset, par le Parlement.
Il va passer à la Knesset, voilà. Effectivement. A priori, d'ici donc la fin de l'année, parce que le projet, c'est de pouvoir légaliser légaliser Amona, dont la destruction est programmée pour le 25 décembre.
Et donc, le projet sera adopté par le Parlement, on en est sûr, ou Benjamin Netanyahou a encore les moyens de convaincre les députés de rejeter le texte?
Politiquement, ça va être très compliqué, parce qu'en fait, si ce projet a été adopté à l'unanimité dimanche par le comité ministériel, effectivement, alors que Benjamin Netanyahou, quelques heures plus tôt, à l'ouverture du Conseil des ministres, avait demandé de laisser tomber, ou en tout cas de mettre de côté pour l'instant, en attendant la décision de la Cour suprême, ce projet de loi, c'est parce que Benjamin Netanyahou a été mis en minorité. D'ailleurs, il a fini par adopter en fait ce projet de loi. Il a lui-même voté, mis en minorité par la frange droite de son parti et la frange plus à droite encore de son gouvernement. Donc politiquement, il est peu probable qu'il y ait une opposition, que le texte devrait passer. Maintenant, ça va poser des questions juridiques. Il y aura probablement des saisines au niveau de la Cour suprême à nouveau, israélienne, et éventuellement aussi d'instances internationales.
Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Guilhem Delteille. Jean Bedel, on a répondu à vos questions?
Oui, parfaitement, Juan.
Tout est clair, tant mieux. Bonne journée, merci de nous écouter à Kinshasa sur la fréquence donc de Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo. 9h25 à Paris, on avait prévu beaucoup de questions ce matin, mais on va déjà prendre Jocelyn qui est en Chine. Jocelyn qui nous écoute à Canton, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous avoir appelés. Vous avez des questions concernant la Corée du Sud, où la présidente est empêtrée dans un scandale?
Oui, bon, il y a déjà plusieurs semaines que la présidente sud-coréenne a remanié son gouvernement suite à un scandale politique majeur. dû à un abus de pouvoir de la part de Mme Choi. Ceci dit, quelle méthode utilisait exactement Mme Choi pour arriver à influencer le sommet de l'État? Et comment expliquer l'importance qu'a pris ce scandale jusqu'à nos jours?
Ah oui, important, c'est peu de le dire. Samedi dernier, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Séoul pour exiger la démission de la présidente Park. C'était d'ailleurs la manifestation la plus importante en Corée du Sud depuis la fin des années 80. À l'époque, les Sud-Coréens manifestaient pour davantage de démocratie. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des deux Corées. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment La Corée du Nord en 100 questions, publié aux éditions Taillandier. C'est un scandale d'État, et on peut peser les mots et on peut dire clairement les choses, un scandale d'État qui secoue la Corée du Sud.
Oui, c'est un scandale qui secoue profondément la Corée du Sud et qui a ses racines finalement dans l'histoire ancienne et récente de la Corée. Il faut savoir que politiquement, la Corée a toujours été menée historiquement par des querelles de clans, mais par la suite par des fractures au sein des partis politiques, par une corruption latente, et ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau.
Ouais, alors ce scandale implique la présidente, donc Mme Park, et une de ses amies, Mme Choi.
Oui, alors je voyais que Jocelyn me demandait quelle méthode cette conseillère utilisait avec précision. Alors il faut savoir que les liens entre la présidente Park Geun-hye et Choi Soon-sil, donc sa conseillère, sont très très anciens, sont des liens intimes. Le propre père de cette conseillère conseillait le père de la présidente Park, c'est-à-dire Park Chung-hee, qui a dirigé la Corée et qui est l'artisan du fameux miracle économique. Et ces liens sont très anciens, donc ce sont des liens intimes, donc les deux femmes se connaissent parfaitement. La jeune femme, Park Geun-hye, quand elle était jeune, ses parents étaient assassinés, trouvait refuge dans cette famille parce que ses deux parents étaient assassinés. Donc ce sont des liens intimes qui fait que cette conseillère a eu accès, d'une part, à tous les discours présidentiels qu'elle corrigeait, a conseillé intimement, tout simplement, au téléphone Park Geun-hye, mais aussi, ce qui est très grave, il y a des implications de corruption puisqu'elle était en charge, elle dirigeait des sortes de sociétés écrans destinées à promouvoir le sport en Corée du Sud et pour lesquelles, grâce à ses connexions étatiques et grâce à la présidente, elle a obtenu des financements des grands chaebol. Les chaebol, ce sont ces grands groupes industriels sud-coréens. Et ces financements sont arrivés dans la poche des fameuses sociétés, mais également directement dans la poche de la fameuse Choi Soon-sil, la conseillère, oui, qui ainsi a financé les études équestres de sa fille.
Oui. Alors, quand vous parlez de financement, on évoque la somme de 61 millions d'euros, dont une partie de cet argent aurait été détournée donc par cette amie vieille de 40 ans de la présidente, Madame Choi. On précise quand même que Madame Choi a été arrêtée. Elle est accusée donc de fraude, d'abus de pouvoir. On voit mal comment la présidente sud-coréenne va pouvoir rester au pouvoir. Des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Les organisateurs parlent de millions de personnes dans les rues de Canton, de Séoul pour exiger sa démission. Peut-elle rester au pouvoir?
C'est, à mon avis, elle va tout faire, et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui pour gagner du temps. Il faut savoir que même au sein de son propre parti conservateur, il n'y a pas d'alternative crédible et possible. Elle doit rester au pouvoir, même s'il y avait un impeachment qui est prévu par la constitution coréenne. Et un président, Noh Moo-hyun, a déjà été impeached au début des années 2000, mais pas pour des questions de corruption, pour des questions légales. Donc cela existe, mais ça va prendre très longtemps.
Ouais.
Donc elle va essayer de se tenir au pouvoir. Elle n'a pas l'intention de partir, mais on arrive dans une impasse. Sans doute faudra-t-il qu'elle passe la main peut-être à un ministre ou à un gouvernement intérimaire. C'est vraiment une catastrophe. C'est le chaos dans le milieu politique coréen qui est miné du côté du Parti conservateur de la présidente par ses propres luttes et querelles. Et bien sûr, l'opposition elle-même veut la destitution de la présidente. Donc
on verra. En tout cas, il y a une étape importante cette semaine, c'est la justice, le parquet qui a prévu d'entendre la présidente Park. Affaire à suivre. Juliette Morillo, merci d'avoir été avec nous. Jocelyn, on vous souhaite une belle fin d'après-midi à Canton, en Chine. Quant à vous, eh bien, restez à l'écoute des RFI. Tout de suite, le journal.
Priorité santé.